Alors bonjour à tout le monde. Alors cette semaine, chacun le sait, il y a une grande décision qui a été prise, celle du Royaume-Uni. Alors je ne suis pas là ce matin pour commenter la décision du Royaume-Uni, hein, d'autant que la politique c'est pas tellement mon truc, hein. Mais on peut imaginer que cette décision va avoir pour le moins des impacts, et puis on peut lâcher le mot des conséquences, hein. Alors, sans doute pour beaucoup de personnes ou beaucoup de pays. Et allez savoir s'il n'y en aura pas plus pour ceux et celles qui ont pris cette décision, j'en sais rien, hein. En tout cas, c'est certainement le sujet qui va nous occuper ce matin, un petit peu de nos choix et de nos conséquences, nos mauvais choix et nos bons choix. Alors le livre de Ruth, et c'est aujourd'hui donc, comme l'a dit Jean-Lionel, c'est le deuxième message sur quatre qui sont prévus sur le livre de Ruth. Alors dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, c'est Gavin qui a traité le premier sujet, et qui concernait principalement le choix d'Élimélec. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un autre personnage, touché par l'amertume, celui de Naomi, son choix et ses circonstances de vie. Naomi ou comment vivre dans l'amertume. Alors, lorsqu'on lit le livre de Ruth dans son ensemble, on se dit, quelle belle histoire! Et c'est vrai en plus, hein, c'est une merveilleuse histoire. Quels exemples, en particulier ceux de Ruth et de Boaz. Et du coup, ben, les personnages d'Élimélec et de Naomi prennent un peu la seconde place. Ils ne sont pas ceux sur lesquels on va s'attarder pour résumer en principe le livre de Ruth. D'ailleurs, c'est le livre de Ruth. C'est pas le livre d'Élimélec ou le livre de Naomi. Pourtant, ces deux personnages sont là, qui font partie donc de l'histoire de Ruth. Et ce sont donc des personnages qui ne sont pas sans influence ou du coup sans enseignement pour nos vies. Alors dans ce livre, il est question, ou il est fait en tout cas, référence, ou son nom est au moins cité, environ 37 fois, celui de Naomi. À peu près 18 fois dans le premier chapitre, 7 dans le deuxième, et puis 6 dans le troisième et le quatrième. Donc j'ai choisi de lire, ou de relire en tout cas, pour nous ce matin, le plus long passage qui la concerne, dans celui du premier chapitre, des versets 6 à 22. Donc nous allons les lire. Puis elle se leva, donc il est question de Naomi, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait pour ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent au pays de Moab, du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alors, en tout premier, on pourrait voir donc les raisons des mauvais choix. La peur de perdre peut conduire loin de Dieu. L'échec peut nous ramener vers lui. Et c'est là tout le vécu de Naomi et le constat que nous pouvons faire de ces circonstances de vie. Pour une plus claire vision de la situation, il nous faut souligner à nouveau le début de l'histoire. C'est la famine dans le pays de Juda, et Élimélec choisit de quitter Bethléem. Alors le départ d'Élimélec à l'étranger pourrait se justifier si la preuve était faite, était établie, que c'était indispensable de quitter Bethléem pour échapper à la mort, si la preuve en était établie. Or, il me semble que deux remarques s'imposent. La première, c'est que dans son récit des faits, Naomi dit qu'au moment de son départ, elle était dans l'abondance et non pas sur le point de mourir. La deuxième remarque, c'est que les personnes qui sont restées se souviennent d'elle à son retour. Cela veut dire qu'elles ont survécu. Et nombreux étaient celles et ceux qui sont restés, puisqu'il nous est dit que toute la ville fut émue à cause d'elle, et c'est parmi ces gens de la ville que ces femmes se sont exprimées. Il apparaît donc, me semble-t-il, que Élimélec et Naomi ont plutôt succombé à la tentation de la peur de manquer plutôt qu'à la peur de mourir. Même si la famine était dans le pays, c'était vrai, même si Élimélec et Naomi auraient fini peut-être par être touchés par la disette, ce choix d'aller à l'étranger n'était pas un choix obligatoire. Et la parole de Dieu nous enseigne. Psaume 37, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Et Gavin nous a rappelé le contexte du pays de Moab, qui sont les méchants et comment ce peuple était opposé à Dieu. Proverbe 15, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Proverbe 16, « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Et enfin, Proverbe 17, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix d'une maison pleine de viande avec des querelles. Le problème de Naomi et d'Elimelec était donc un problème de foi ou de non-foi. C'est sans doute la vraie raison de leur mauvais choix. L'adversité, les difficultés ne sont pas des condamnations à mort, mais bien souvent des circonstances qui peuvent nous permettre de manifester notre foi et notre confiance en Dieu. Certes, la famine reste une dure épreuve. Beaucoup de gens en sont morts et en meurent encore de nos jours, c'est incroyable. Mais au tout début des difficultés, même un peu avant les difficultés, quand on les pressent, c'est souvent la peur de l'épreuve, la peur de la perte des biens, de la perte de la santé qui nous effraie. Et c'est cette peur-là qui a sans doute fait fuir Naomi et pas seulement la famine, puisqu'elle était encore, nous le répétons, à ce moment-là dans l'abondance, et que d'autres, peut-être moins privilégiés qu'eux, ont survécu. Après avoir vu rapidement les raisons des mauvais choix, on peut s'arrêter un moment sur l'incidence personnelle des mauvais choix pour Naomi. Alors, après cette nécessité du rappel des circonstances, reste maintenant ce qui résulte donc de ces mauvais choix. Il me semble qu'il y a de fortes probabilités que le long séjour en terre moabite a dû altérer la relation de Naomi avec son Dieu. À force de vivre au milieu de personnes qui, pour le moins, ne connaissent pas Dieu comme père, on prend le risque de finir de penser et de vivre à leur exemple. Et cela participe à distendre notre relation avec Dieu, participe à brouiller notre vision des choses et de la réalité. Et de ce fait, il n'y a qu'un pas facile à faire, celui qu'a fait Naomi, celui vers l'amertume dont elle accuse Dieu de l'avoir rempli. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'amertume? Quels effets produit-elle? Alors, si on prend la définition du dictionnaire, je vous la lis, est l'amertume, un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Voilà pour la définition. Un certain Carter Roche, professeur du département de psychologie de l'Université Concordia au Québec, donc plus particulièrement à Montréal, qui s'intéresse aux effets sur la santé liés aux émotions négatives, comme l'amertume, rappelle que l'amertume consiste à reprocher aux autres nos échecs, à la différence du regret qui consiste à se reprocher à soi-même nos propres échecs. La personne qui éprouve de l'amertume rumine ses échecs, non en se blâmant elle-même, mais en accusant les autres ou les événements extérieurs. Et parfois, cette attitude, je dirais qu'elle peut s'enquister de manière durable, avec des conséquences fâcheuses pour à la fois le moral de la personne et à la fois pour les relations avec les autres. Et ce même professeur dit que ce sentiment durable, dit-il, conduit à un auto-empoisonnement psychologique, qui a des causes et des effets bien déterminés. Et parmi les effets nocifs de l'amertume, dit-il, il n'y a pas simplement une baisse de morale ou bien une détérioration de la relation avec les autres. Mais en plus, cela peut conduire à l'altération de la santé. Et c'est en tout cas ce qui ressort de la synthèse de ce professeur. Je le cite, « Une incessante amertume peut susciter des sentiments généralisés de colère et d'hostilité. Il suffit qu'un individu les ressente suffisamment fort pour que sa santé physique en soit affectée. » Voilà pour l'avis, je dirais, d'un spécialiste. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que l'amertume qui vient de la douleur a le droit et le besoin de s'exprimer. 1 Samuel 1, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. » Job chapitre 10, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte sur mon sort. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » De Roi 4, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Et la Bible nous montre, nous met en garde contre les effets destructeurs et contagieux du sentiment d'amertume. Dans le livre des Hébreux, on peut lire « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que le fait de rester dans l'amertume, c'est tout simplement se priver de la grâce de Dieu. Et c'est en même temps courir le risque de l'infection, de la contagion à d'autres. Et l'apôtre Paul, donc, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, dit, il nous exhorte que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Que toute amertume soit ôtée du milieu de vous. Même justifiée. L'amertume ajoute de la souffrance à la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur veut conduire les personnes qui en sont atteintes vers la guérison. Ainsi, l'amertume doit et peut être guérie. Ésaïe 38, « Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris le plaisir de retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Quelle espérance au cœur même de l'amertume. Il ne s'agit pas de penser que l'amertume ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas ça la question. Mais il ne s'agit pas de nous laisser dominer par elle. Comme tout sentiment passionné d'ailleurs, comme par tout sentiment passionné. Le droit à l'amertume ne signifie pas le droit ou le bien fondé d'y demeurer. Alors, que fait Naomi de son amertume? Les nouveaux choix de Naomi, ou autrement dit, la thérapie de Dieu pour Naomi. Alors, on s'entend tous sur le mot thérapie, hein, c'est-à-dire c'est une méthode de soin. Les nouveaux choix de Naomi, ou autrement dit, la méthode de soin de Dieu pour Naomi. Alors Naomi expliqua qu'elle était partie de nombreuses années auparavant avec son mari, avec ses fils, et qu'à présent, elle revenait les mains vides, veuve et sans enfant. Et ce passage donc du livre de Ruth nous entretient essentiellement sur la merveilleuse grâce de Dieu et sur sa patience envers Naomi. Il intervient à chaque pas pour guider Naomi, pour l'encourager sur le chemin du retour, vers le chemin du retour. Chemin du retour qui est toujours ardu pour ceux et celles qui se sont éloignés. Un chemin de retour, et vers Dieu en particulier, est toujours ardu. Dieu permet d'abord que Naomi entende dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors qu'elle avait tout perdu dans ce pays, au pays de Moab, Dieu, dans son immense grâce, avait maintenant délivré son peuple de la famine. Ce ne sont pas les souffrances seules ou à elles seules qui suffisent à nous décider à revenir à Dieu. Mais elles peuvent parfois, et même souvent, nous être en aide lorsque nous réalisons l'amertume qui résulte de notre éloignement. Et toute la grâce de Dieu est là, de nous donner, de réaliser que nous sommes atteints d'amertume. Et nos cœurs, dans ce moment-là, sont alors préparés à recevoir les bonnes nouvelles de la miséricorde du Seigneur, et préparés également à pouvoir jouir à nouveau de sa grâce. Naomi se leva, elle partit du milieu où elle était et se mit en chemin. Et du coup, le premier pas sur le sentier du retour, c'est bien celui-là, c'est qu'il consiste à se dégager entièrement de toutes nos forces d'association. On l'a lu rapidement, elle voulait vraiment se séparer de ses belles filles, de tout ce passé, qu'ils reviennent tous vers leur Dieu, ainsi de suite. Le cœur de Naomi est droit. Elle en a fini avec les compromissions. Elle a choisi le retour vers Dieu. C'est le second choix de Naomi. Et le plus important, elle a choisi le retour vers Dieu. Mais le retour de Naomi dans sa ville, où leur départ a sans doute laissé un goût amer, était certes, au moment de l'arrivée, un moment heureux, mais pour autant difficile à vivre. Tous ceux et celles qui ont suivi le chemin douloureux de retour le comprennent sans peine. Naomi est face à tous ses compatriotes interrogateurs. Et elle résume en quelques mots son triste parcours. Elle s'humilie et leur dit « Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle souhaite être appelée amertume. Ainsi, elle exprime la réalité de son vécu. Elle est passée de la grâce à l'amertume. Mais le processus inverse est possible à Dieu. Naomi signifie ma gracieuse. Gavin nous l'a rappelé. Mais on discerne dans l'action de Dieu envers Naomi qu'elle pourrait être aussi appelée ma graciée. Dieu a décidé de lui faire grâce. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Et là, je pense qu'il y a une parole extraordinaire. C'est l'Éternel me ramène. C'est le début d'un processus de retour à la grâce. Et celui du rétablissement dans la grâce. Un processus en inverse un autre. Une loi peut annuler ou contrecarrer les effets d'une autre loi. C'est ce qui nous est rappelé dans l'Épître aux Romains. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, pour revenir à notre professeur Roche, il souligne enfin l'importance de sensibiliser les personnes à trouver des alternatives à l'échec. Conduire cette personne ou ces personnes affectées par l'amertume vers une thérapie de l'échec, vers une méthode de soin des effets de l'échec. Alors la thérapie de l'échec de Dieu pour Naomi, c'est quand il montre à Naomi où se trouve le salut. Que tout va bien à Bethléem, le cadre qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Le salut est auprès des siens, auprès de Dieu. Une invitation divine au retour. Ensuite, la thérapie de l'échec de Dieu pour Naomi, c'est de lui avoir donné et conservé Ruth à ses côtés. Comme l'exemple, ou si vous aimez mieux, comme le modèle d'une personne qui est prête à tout perdre pour se confier. Et Naomi n'était pas prête à tout perdre. Et elle n'a pas fait confiance en Dieu. Alors que Ruth se confie. Mais Dieu place maintenant auprès de Naomi une personne remplie d'exemples positifs. Il montre à Naomi l'activité de la foi de Ruth. Et cela en vue de l'encourager. Lorsque le chemin est pénible, pour chacun d'entre nous, lorsque la souffrance se fait ressentir, soyons certains que le Seigneur placera toujours sur notre route des frères et des sœurs pour nous secourir. La thérapie de l'échec de Dieu pour Naomi, c'est quand il montre à Naomi le lieu et le moment de la bénédiction. Dieu fait en sorte que non seulement Naomi retourne à Bethléem, le lieu de la bénédiction, mais qu'elle le fasse au moment même de la moisson des orges, qui représente la joie après les douleurs. C'est le temps des pleines bénédictions de Dieu lorsqu'on revient à lui. Et enfin, la thérapie de l'échec de Dieu pour Naomi, c'est quand il montre à Naomi la nécessité salutaire de se désintéresser de soi pour se préoccuper d'autrui. Naomi s'est attachée de plus en plus à Ruth. Elle se montre désintéressée d'elle-même et de ses souffrances. Elle pense avant tout au bien de sa belle-fille. Et c'est là qu'interviennent les références de Naomi dans d'autres chapitres, au chapitre 3 notamment. Et Naomi, dit sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos ?» Je sais ce que c'est que le non-repos. « Ne te chercherai-je pas du repos pour toi ?» Et Naomi encourage Ruth vers la patience. Toujours au chapitre 3, elle dit, « Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. T'en fais pas, cet homme va aller au bout des choses et ce sera bon pour toi. » Elle l'encourage à la patience. Naomi retrouve une vision positive, une juste vision des choses. Elle montre le chemin à Ruth en la conduisant vers Boaz qui sera comme une belle récompense que Dieu accorde à la foi. Le choix de retour de Naomi, même s'il s'est fait dans la douleur, l'humiliation reste le bon choix, celui de faire un retour vers Dieu. Alors, comme conclusion, Le contraire de l'amertume, ce pourrait être quoi? Ce pourrait être la paix, la douceur, peut-être aussi le contentement de ce que l'on a. Il y a un chemin victorieux à mettre autre chose à la place de l'amertume que l'on arrache. Son retour à Dieu a permis à Naomi de choisir de s'oublier, de laisser l'amertume pour se concentrer sur Ruth, se concentrer sur l'aide et le soutien qu'elle pouvait lui apporter. L'intérêt pour les autres, les frères et sœurs, pour ceux qui nous entourent, reste un remède efficace. Naomi a certainement trouvé une consolation et une forme de guérison en se préoccupant du bonheur de Ruth et en lui prodiguant de bons conseils. Alors que Dieu nous accorde, je dirais femmes et hommes, là il est question de Naomi, mais les hommes sont concernés aussi, que Dieu nous accorde la capacité de voir et d'accepter de l'autre qu'il soit une aide, un soutien, un modèle réparateur. Naomi a fini par accepter Ruth. À ses côtés reste ma fille. Et ce fut pour elle le début du recommencement. Alors que Dieu nous accorde également d'avoir un cœur de Naomi et non pas de Mara. Toute la gloire de nos guérisons, toute la gloire de nos retours vers Dieu doit revenir à Dieu. Et c'est ce qu'expriment les femmes auprès de Naomi quand elles retournent à Bethléem, au verset 14 du chapitre 4. Et c'est, me semble-t-il, la plus belle des conclusions. Pourquoi? Parce que c'est une conclusion qui est comme un clin d'œil de Dieu à Naomi qui avait peur de tout perdre. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer. Alors bien sûr les femmes ajoutent, en te donnant la possibilité d'avoir cet homme qui va te racheter, qui va donner un petit-fils à Naomi, donc une descendance, de nouveaux intérêts pour la vie. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer, et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen.